Alors, ce texte est supplément du voyage de Bougainville, rédigé par Denis Diderot en 1772. On peut dire que c'est une réponse au récit du voyage de Bougainville de 1767. Alors, on peut donc dire que Diderot, à travers ce texte, a mené des réflexions personnelles, mais a mené une réponse à ce récit de voyage. Diderot était un personnage du XVIIIe siècle, un philosophe qui a notamment écrit l'Encyclopédie, qui est un précepte à l'idéologie des Lumières. Il est également proche de la censure. Il jouait soit par l'ironie, soit par une autocensure, justement. Alors, mon plan va être tout d'abord de la ligne 1 à 6, j'expliquer la mise en place et la situation de pater familias, du tahitien, du vieillard dans sa société. Enfin, de la ligne 7 à 15, je vais montrer que le discours est prophétique pour son peuple. Il met en avant le danger que court son peuple à s'ouvrir aux Européens. Enfin, de la ligne 16 à 24, le vieillard fait une plaidoirie du monde sauvage. Et enfin, à la fin, son discours porte à émettre un renversement des valeurs entre les deux peuples. Il était père d'une famille nombreuse. À l'arrivée des Européens, il laissa tomber des regards de dédain sur eux, sans marquer ni étonnement, ni frayeur, ni curiosité. Ils l'abordèrent, il leur tourna le dos et se retira dans sa cabane. Son silence et son souci ne décelaient que trop sa pensée. Il gémissait en lui-même sur les beaux jours de son pays éclipsé. Au départ de Bougainville, lorsque les habitants accouraient en foule sur le rivage, s'attachaient à ses vêtements, serraient ses camarades entre leurs bras et pleuraient, ce vieillard s'avança d'un air sévère et dit « Pleurez, malheureux Tahitien, pleurez, que ce soit de l'arrivée et non du départ de ces hommes ambitieux et méchants. Un jour, vous les connaîtrez mieux. Un jour, ils reviendront, le morceau de bois que vous voyez attaché à la ceinture de celui-ci, dans une main, et le fer qui pend, côté de celui-là, dans l'autre. Vous enchaînez, vous égorgez, vous assujettir à leurs extravagances et à leurs vices. Un jour, vous servirez sous eux, aussi corrompus, aussi vils, aussi malheureux qu'eux. Mais je me console, je touche à la fin de ma carrière, et la calamité que je vous annonce, je ne la verrai point. Ô Tahitien, ô mes amis, vous auriez un moyen d'échapper à un funeste avenir. J'aimerais mieux mourir que de vous en donner le conseil. Qu'ils s'éloignent et qu'ils vivent. Puis s'adressant à Bougainville, il ajouta « Et toi, chef des brigands qui t'obéissent, écarte promptement ton vaisseau de notre rive. Nous sommes innocents, nous sommes heureux, et tu ne peux que nuire à notre bonheur. Nous suivons le pur instinct de la nature, et tu as tenté d'effacer de nos âmes son caractère. Ici, tout est à tout, et tu nous as prêché je ne sais quelle distinction du tien et du mien. Nos filles et nos femmes nous sont communes, tu as partagé ce privilège avec nous. Et tu es venu allumer en elles des fureurs inconnues. Elles sont devenues folles dans tes bras, tu es devenu féroce entre les leurs. Elles ont commencé à se haïr, vous vous êtes égorgé pour elles. Elles nous sont revenues teintes de votre sang. Nous sommes libres, et voilà que tu as enfoui dans notre terre le titre de notre futur esclavage. Tu n'es ni un dieu, ni un démon. Qui es-tu donc pour faire des esclaves? Oh, roux, toi qui entends la langue de ces hommes-là, dis-nous à tous, comme tu l'as dit à toi-même, ce qu'ils ont écrit sur cette lame de métal. Ce pays est à nous. Ce pays est à toi? Et pourquoi? Parce que tu as mis le pied? Si un Tahitien débarquait un jour sur vos côtes et qu'il grava sur une de vos pierres, sur l'écorce d'un de vos arbres, ce pays est aux habitants de Tahiti. Qu'en penserais-tu? Tu es le plus fort? Et qu'est-ce que cela fait? Lorsqu'on t'a enlevé une de tes méprisables bagatelles, dont ton bâtiment est rempli, tu t'es récrié, tu t'es vengé. Et dans le même instant, tu as projeté au fond de ton cœur le vol de toute une contrée. Tu n'es pas esclave, tu souffrirais plutôt la mort que de l'être, et tu veux nous asservir? Tu crois que le Tahitien ne sait pas défendre sa liberté et mourir? Celui dont tu veux t'emparer, comme de la brute, le Tahitien est ton frère. Vous êtes deux enfants de la nature. Quel droit as-tu sur lui qu'il n'est pas sur toi? Tu es venu? Nous nous sommes jetés sur ta personne? Avons-nous pillé ton vaisseau? T'avons-nous saisi et exposé aux flèches de nos ennemis? T'avons-nous associé dans nos champs au travail de nos animaux? Nous avons respecté notre image en toi. Laisse-nous nos mœurs, elles sont bien plus sages et plus honnêtes que les tiennes. Nous ne voulons pas point troquer ce que tu appelles notre ignorance contre tes inutiles lumières. Alors, ma problématique pour ce texte sera la suivante. Comment Diderot dénonce les comportements de la société européenne et fait l'éloge du monde sauvage dans un dialogue? Premièrement, je vais parler de la mise en place de la situation. On peut voir que Bougainville est sur le point de partir en Europe. Oui, on peut bien voir que c'est le départ de Bougainville. Et on voit par une énumération des sentiments que le vieillard ignore un peu ses visiteurs, et cette indifférence, mais aussi on peut voir cette conscience qui va prendre lors du discours s'oppose à la naïveté de son peuple qui parle, par exemple, par le champ lexical de l'agitation, lorsque les habitants accouraient en foule, s'attachaient ses vêtements, serraient ses camarades. On peut voir que ce vocabulaire s'oppose à la sagesse du vieillard. Ce vocabulaire représente donc la naïveté du peuple, qui croit que les Européens sont leurs sauveurs. Il est donc présenté comme un pater familias, c'est-à-dire comme à l'époque romaine, par l'emploi d'une famille nombreuse. Il dirige tout un peuple, donc. L'antithèse « beaux jours » et « pays éclipsé » montre bien que les beaux jours, justement, de Tahiti sont derrière eux, à cause de l'arrivée des colons. Et enfin, le fait que le vieillard réfléchisse en silence montre son côté prophétique, qu'il va inclure dans son discours. Alors, parlant du discours, le vieillard emploie beaucoup d'apostrophes afin de maintenir l'attention de son peuple, de la gravité de la situation. Il les interpelle donc. Vous les connaîtrez mieux, par exemple. Cette phrase a une valeur de fatalisme, c'est-à-dire que la situation sera irréversible. Diderot aussi emploie beaucoup le champ lexical des vices, ambitieux, méchant. Il dénonce donc les pratiques des Européens. Afin de bien capter l'attention de ses interlocuteurs, il utilise le champ lexical de la soumission, comme par exemple violence, enchaîner, égorger, et il prépare en quelque sorte ses compatriotes sur ce qui les attend. Et le terme calamité renforce la gravité de son discours et de son côté prophétique. Enfin, le champ lexical du malheur montre que le vieillard est persuadé que la situation ne peut pas s'améliorer Mais enfin, il se rassure en parlant de la fin de sa carrière. Comme quoi, l'image du prophète se renforce. Il appelle donc son peuple à la révolte. Enfin, la plaidoirie du monde sauvage commence par un mépris, des insultes, en apostrophant les Européens, comme par exemple chef des brigands, et il donne aussi un ordre, écarte promptement ton vaisseau. Il est donc agressif et montre bien qu'il ne veut pas se laisser distraire par cette nouvelle culture. Il défend aussi son peuple par le parallélisme de construction. Nous sommes heureux. Nous sommes innocents. Comme quoi, cette première aurait une conséquence sur le bonheur des Tahitiens. Il y a aussi une opposition entre les déterminants ton et nôtre pour montrer que le vieillard n'est pas ouvert à cette nouvelle culture. Il utilise aussi une tournure restrictive pour montrer que ses apports culturels, ses apports de nouvelles ressources, de nouvelles technologies ne sont pas bonnes et qu'il bannit totalement cette option. Ensuite, le vieillard leur explique que tout est à tout, ce qui est une critique de la propriété privée instaurée par les Européens. Enfin, est évoquée une distinction du tien et du mien, ce qui montre que les Européens ont une culture, vont montrer qu'ils ont une culture supérieure. Ce qui évoque donc l'ethnocentrisme. Ensuite, le champ lexical de la violence témoigne du peu de respect que les Européens montrent pour les Tahitiens. Par exemple, quand Diderot évoque un partage entre guillemets des femmes. Et enfin, en plus des violences, il évoque le sang, ce qui donne un aspect réaliste à son anecdote. Il oppose aussi deux termes, libre et esclavage, afin de dénoncer justement cette mise en esclavage, mais aussi l'abus du pouvoir, et de l'arbitraire par les Européens. Enfin, dans la dernière partie, on peut parler de l'inversement des valeurs. En effet, cette mise en scène qui fait dire à, on peut comprendre un de son peuple qui doit lire ce pays est à nous, ce qui est un peu une mise en scène théâtrale. Et ensuite, la suite de questions rhétoriques pousse à la réflexion, à la fois les Européens, particulièrement Bougainville, mais aussi le lecteur. Enfin, la tournure négative, ni un dieu, ni un démon, montre que les Européens se croient encore supérieurs à cette civilisation tahitienne. Enfin, l'inversement de la situation par le vieillard évoque, par exemple, il explique que si lui venait à coloniser une autre terre, la situation serait totalement absurde. Enfin, l'opposition méprisable bagatelle devant l'une contrée montre que les Européens sont matérialistes et qu'ils ont une attitude disproportionnée par rapport à un petit vol. Enfin, les dernières phrases sont aussi des questions rhétoriques qui poussent toujours à la réflexion les Européens. Et la phrase « tu souffrirais plutôt la mort que de l'aide » montre une part de l'orgueil européen à l'époque. Enfin, le tutoiement est une sorte de mise à niveau entre le Tahitien et son interlocuteur. On peut voir également que lors des dernières questions rhétoriques, nous sommes-nous jetés sur ta personne? Avons-nous pillé ton vaisseau? T'avons-nous saisi et exposé aux flèches de nos ennemis? On peut revoir un champ lexical de la violence, voire du massacre, qui montre l'abus de la force par les Européens. Enfin, le Tahitien est persuadé que sa culture est la meilleure, par le comparatif de supériorité plus. Il est persuadé que la vie sauvage est meilleure que la vie européenne, pleine de corruption, pleine de vices. Mais enfin, la dernière critique est paradoxale, puisque si on suit Diderot, qui était plutôt de la même idéologie que les Lumières, il critique ici ces dernières, justement. Nous ne voulons point troquer ce que tu appelles notre ignorance contre tes inutiles lumières. En effet, il appelle ignorance. Le vieillard, justement, se défend en parlant de l'ignorance qui est sa culture. Ce qu'appelle sa culture l'européen. Et enfin, contre, il parle d'inutiles lumières. Ce qui montre que la culture abondante des Européens n'est pas forcément une source de bon comportement, d'attitude vis-à-vis d'une autre population. Enfin, dans ce texte, on peut voir que le dialogue du vieillard, entre le vieillard et Bougainville, sert à faire réfléchir le lecteur. Ensuite, son peuple. Donc, et enfin, ce texte de Diderot a été aussi rédigé afin de critiquer cette société européenne du XVIIIe siècle à travers le discours d'un vieillard qui fait partie d'une population totalement naïve, ce qui dénonce aussi l'aspect colonisateur de ce voyage de Bougainville. Il utilise donc par ce discours, par ces questions rhétoriques, le registre polémique. Et enfin, on peut dire que ce registre, justement, est utilisé afin, dans un premier temps, de blâmer les comportements des Européens sur les terres tahitiennes. Et par la suite, de faire l'éloge de la vie sauvage et de leur pratique. Et pour conclure, il essaie d'égaliser les deux cultures afin de montrer que les Européens sont ethnocentriques.